Vous écoutez RTL.
Vous êtes bien sur RTL, il est 11h passé de 3 minutes. Tout de suite, Stéphane Bern et toute son équipe pour À la bonne heure.
Absolument, merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan qu'on retrouve avec plaisir à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais nous sommes dans À la bonne heure avec nos invités Igor et Grishka Bogdanov pour le livre des merveilles technologiques. Bonjour, je vais vous présenter dans un instant, mais d'abord je vous présente mes petits camarades à la une. Comme tous les mercredis, le héros et le salaud de la semaine, c'est Stéphane Blakowski qui les a trouvés. Ah. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Cette semaine, un ignoble salopard, un serial killer, comme on dit aux États-Unis.
Ah, super.
Plus de 100 morts pour sur la conscience.
Ah oui, bien. Ah,
vous imaginez, vous avez hâte de savoir.
Qui est son nom? Juste après le journal de midi, la marque du maillot, Régis Maillot, aujourd'hui, va aborder un sujet très grave, c'est la pénibilité au travail.
Oui.
Et nous, on souffre.
Dans certaines professions,
oui.
Très précises. Et aussi une étude que nous a révélée
le Parisien aujourd'hui en France.
En France, sur ce qu'on fait en voiture, à part rouler.
On ne fait pas que conduire.
Oui,
les femmes se maquillent. On les voit où.
Et
les
hommes,
il y a des hommes qui se rasent.
Oui, qui se maquillent aussi, j'en ai vu.
Et on chante. Mais comment on se rase au volant?
Je vais pas la faire.
On a le droit.
On a le temps d'oublier.
Il risque d'y avoir du grabuge dans ce studio vers 11h50, l'heure du zapping télé d'Éric Dussard.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça sent le règlement de compte.
Vous osez encore me parler?
Pourquoi?
Vous osez encore me parler après ce que vous nous avez fait hier soir, Stéphane?
J'ai fait quoi?
Nous avez fait honte sur France. Il a raconté, mais alors, obscénité sur obscénité.
Non.
Avec son copain Nagui, là, dans Tout le monde joue pour la France, une horreur. Et Stéphane Bern a-t-il relevé le défi que nous lui avions lancé hier?
Oui, j'ai dit la phrase.
À moitié.
En loose day.
En sous-couche.
Oui.
On va entendre ça tout à l'heure, vous allez en prendre pour votre grade.
D'accord.
Ouais.
À midi 20, le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Vous vous êtes inspiré d'un documentaire qui passe ce soir sur Paris Première.
Absolument.
C'est plus marrant, j'entends. Pour nous proposer un test sur les chansons comiques.
Voilà. Parce que la France est la reine des chansons humoristiques.
Et on va faire gagner à nos auditeurs un séjour à l'hôtel. S'il vous plaît, j'annonce le cadeau.
Ah oui.
Un séjour à l'hôtel Spa 4 étoiles, la Chenaudière, à Colroy-la-Roche, dans la vallée de la Bruche. Pas de contre-pétrie.
C'est très drôle.
C'est
ça.
Tout dans le bon sens.
Ce sont des vrais pays
Oui, tout ça existe, c'est près de chez nous,
Stéphane.
Entre Strasbourg et Colmar. Et notre invité surprise, à l'occasion de l'exposition qui est fabuleuse, l'exposition Hergé au Grand Palais, c'est Tintin, vous savez que c'est le mode Tintin.
Oui.
Eh bien, nous irons à Moulinsart tout à l'heure.
Voilà, ou presque.
Stéphane, vous pourriez annoncer Peggy quand même.
Et oui, et Peggy est avec nous.
Ce matin.
Ah, Peggy qui fait craquer Laurent Baffy.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Peggy, vous allez nous parler de quoi?
Du pesticide.
Ah, c'est pas encore la gastro. Ça arrivera bientôt.
Allez, je vous présente nos invités. Des promesses, encore des promesses, toujours des promesses. Ils sont comme les communistes soviétiques au temps de la guerre froide. Ils ne cessent depuis 20 ans de nous promettre des lendemains qui chantent. Une kyrielle d'inventions technologiques qui vont assurément faire notre bonheur. Outre que les progrès de la médecine vont nous obliger tous à vivre jusqu'à 150 ans, même si on n'en a pas envie. Oui, ils sont des visionnaires, car dans temps X, dans les années 80, ils nous projetaient déjà dans un univers sensationnel, quasiment de science-fiction, avec des robots, des téléphones portables, toutes choses qui nous paraissent improbables, et à l'époque, et qui aujourd'hui font partie de notre quotidien. Mais leur promesse d'un monde technomagique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et ils nous invitent à entrer dans leur monde imaginaire du rêve et du merveilleux en enfourchant des machines qui devraient révolutionner notre vie dans les 50 prochaines années. Avec leur livre « Des merveilles technologiques » publié chez Flammarion, ils ont enfilé leur combinaison de Star Trek pour se faire télétransporter depuis le mur de Planck qu'ils ont exploré à l'instant zéro après le Big Bang pour se remettre en route vers le futur avec nous ce matin. Les deux frères les plus mystérieux de la création terrestre depuis Cain et Abel, j'ai nommé Igor et Grishka Bogdanov.
Alors déjà, rien que dans le portrait, on n'a rien compris.
Ouais.
Quand on voit, on se rend compte qu'on est vraiment stupide.
Ah, moi, je trouve qu'il a un art pour donner effectivement la perspective, projeter les personnages, etc. Moi, je dis vraiment...
Et donner envie,
vive Stéphane.
Et puis, il tend un index technologique. Voilà.
Ouais, ça a l'air
de
faire mal.
Le livre des merveilles technologiques. Je voudrais préparer une interview à venir. Parce que moi, je parle beaucoup du passé, mais vous, on va parler d'avenir avec vous.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous retrouvons Igor et Grishka Bogdanov pour le livre des merveilles technologiques. Mais d'abord, petite interview à venir. Est-ce que vous avez l'impression, tous les deux, que l'avenir n'est plus ce qu'il était?
Et oui, en fait, l'avenir change.
Oui.
Il change selon... Hier, l'an 2000, par exemple, n'est plus du tout l'an 2000 d'aujourd'hui. Évidemment, pas encore celui de demain.
Est-ce que on ne s'intéresse à l'avenir que parce que, au fond, le passé révolue et que le présent ne nous échappe en permanence.
C'est une épreuve de philo, quoi.
Oui. C'était une question sur le bac, ça.
Pardon, j'ai atteint votre seuil de pétence.
Ah, mais on est
votre seuil d'incompétence, Éric Dussard.
On est au-delà, Stéphane.
Oui, je sais.
Mais c'est vrai qu'on peut toujours se projeter sans risque. Hein.
Oui. Mais, d'une part, mais d'autre part, on s'intéresse à l'avenir parce qu'on rêve à l'avenir. On a envie d'entrer dans un univers qui est plus... qui est plus agréable à vivre que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Oui. Donc, il y a une part d'espoir.
Mais pourquoi
qui
ça
se
serait
projette.
Mieux demain ? C'est ça que je...
Parce que en fond, c'est tout simplement, la loi universelle qui fait que les choses évoluent en état de complexité croissante.
Oui, mais vous avez bien vu que ça ne s'est pas amélioré, les choses.
Regarde, le Stéphane Bern d'aujourd'hui est tellement...
Oui, mais moi, je suis une exception. J'en dirais pas autant.
Nous, même en 1700, était moins bien.
Mais, c'est la version 2.0.
Mais honnêtement...
Stéphane 2.0, c'est ça
non, mais attends, honnêtement, on promettait des printemps qui chantent, et la révolution... Vous avez bien vu le résultat des massacres Donc, l'avenir n'est pas forcément mieux que le présent.
Non, en réalité, la technologie nous donne des solutions. C'est ce qu'on dit, au fond, l'avenir, on pense toujours que l'avenir va être plus sombre que le présent, que hier, c'était mieux. Et en réalité, ce n'est pas vrai. L'homme souffrait beaucoup, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans.
Quand il fallait aller chez le dentiste, déjà.
Oui, mais il n'y en avait pas, c'était rassurant.
Même quand il fallait faire Paris-Versailles, c'était dangereux.
C'était dangereux. Dans notre livre, on parle justement d'une fraise qui ne fait plus mal du tout, puisque c'est, en fait, on sait déjà que ça existe dans le
laser.
C'est un laser. Donc, ça change tout.
Alors sûr, on ira avec plaisir chez le dentiste.
Oui, voilà, mais il faut se mettre à la place, par exemple, des hommes au néolithique, qui ont inventé, entre guillemets, un système qui leur permettait de faire du feu. Alors que avant eux, les 3 ou 4 générations...
Ils mangeaient cru.
Donc, il faut comprendre que la technologie améliore et facilite la vie des hommes.
Non, c'est vrai, mais ça ne va pas toujours aussi mieux.
À la préhistoire, on se tue avec des haches en pierre, et maintenant, on se tue avec des armes à feu. Voilà le progrès, en fait.
Voilà, c'est ça la grosse avancée. Alors, est-ce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt?
Oui, alors surtout quand ils dorment peu, en fait.
Vous dormez peu?
Oui, moi, 4 heures, vraiment, maximum.
Ah oui.
Là, ce matin, je me suis couché à 6 heures et levé à 10, juste pour être vraiment
bien.
En forme pour l'émission.
Ouais. Mais en même temps...
Mais c'est vrai que c'est juste 4 heures.
Donc, ça suffit.
Et alors, pour moi, c'est très tôt. Mais 10 heures pour toi, c'est très tard, parce que toi, tu te lèves évidemment très tôt.
Il ne se couche pas à 6 heures et demie.
L'imagination, c'est l'ami ou l'ennemi de l'avenir?
L'imagination est bien entendu l'ami de l'avenir. Ce que disait Einstein d'ailleurs est très juste. Il dit, finalement, ce qui compte en science, ce ne sont pas les connaissances, et c'est vrai dans la réalité, mais c'est l'imagination. L'imagination, c'est vraiment pas du tout la folle du logis, comme le disait notre grand écrivain, mais c'est la reine de toutes les facultés.
Alors justement, est-ce que la femme est l'avenir de l'homme?
La femme est le passé, le présent et l'avenir de l'homme.
Très bien. Est-ce que, comme Woody Allen, vous pensez que l'avenir est la seule chose qui doit nous intéresser parce qu'on compte bien y passer les prochaines années?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et d'autant plus que Niels Bohr, qui est un des grands de la mécanique quantique, donc de la physique d'aujourd'hui, disait qu'il est très difficile de prévoir quelque chose, surtout quand il s'agit de l'avenir.
Alors, moi, si on me donnait une baguette magique, j'adorerais retourner dans l'histoire, dans le passé. Et vous, si on vous donnait une baguette magique, vous préféreriez aller dans l'histoire ou au contraire, aller vous projeter dans 100 ans
Bien sûr, dans l'avenir. Évidemment, parce que le monde qui nous attend dans les 100 ans à venir est un monde absolument fascinant, dont on a du mal d'ailleurs à déceler les contours, parce que il faut bien comprendre que les changements qui vont intervenir dans les secteurs les plus importants, l'informatique, la biologie, l'énergie, l'espace, ce sont des changements qui sont tellement importants et profonds que aujourd'hui même les futurologues les plus avisés ont beaucoup de mal à décrire la silhouette de ce monde-là. Mais ce sera un monde fascinant de toute
façon.
C'est
fascinant. Pensez que nous on avait tout investi dans le Minitel et que tout s'est passé sur Internet. On avait tout investi dans le Bebop et puis le téléphone portable est arrivé.
Non, regardez le Bebop toujours. Elle a encore.
Ah non, on a le pif. Vous voyez ce que je veux dire?
On a les le Concorde, tous ces grands projets qui font la bouche de notre pays.
Ah, mais le Concorde a eu.
Mais ce qu'il faut comprendre, on ne peut pas avoir simplement une sorte de réticence comme ça à imaginer l'avenir, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le passé va aussi migrer vers le futur. Versailles sera toujours là.
Mais dans quel état?
Non, il sera bien entretenu et on sera certain de toute façon de le retrouver s'il en avait la possibilité.
Et l'idée de la catastrophe qui raille l'humanité de la Terre dans 100 ans, ça vous effleure pas?
Non, ça nous sépare.
Vous savez, pour l'interview, ce serait plus pratique que vous quittiez votre navette spatiale parce que depuis tout à l'heure, il y a de l'écho sur votre voix. Là, vous nous rejoignez en studio. La liaison est pas top.
On descend. Allez.
Ah voilà, ils atterrissent.
Formidable. Allez, on retrouve tout de suite Igor et Grishka Bogdanov pour ce très beau livre d'ailleurs. Il faut dire que c'est un bel objet. C'est chez Flammarion, le livre des merveilles technologiques. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous retrouvons Igor et Grishka Bogdanov pour le livre des merveilles technologiques qui recense tous les objets dont certains n'existent pas encore, mais dont on se servira sans doute quotidiennement dans les années qui viennent. Alors ce livre pose quand même deux questions. La première, est-ce que nous sommes vraiment en train de changer de monde et peut-être de civilisation ?
Oui, certainement. Aujourd'hui, le savoir scientifique double tous les ans. Alors qu'il y a 5 ans, il doublait tous les 5 ans. Justement. Donc, c'est quelque chose. Il y a une accélération de l'histoire qui est extraordinaire.
Mais il faut se méfier parce qu'on peut aller dans le mur aussi. Alors, parce que justement, c'est ma deuxième question. Est-ce qu'on ne s'emballe pas un peu trop vite ? Parce que c'est vrai que dans les années 50, on parlait, en l'an 2000, on imaginait des voitures volantes, des gens habillés un peu comme vous. Mais on n'avait pas prévu ni Internet ni le portable. Est-ce qu'on ne risque pas de commettre le même type d'erreur ?
Ben, il faut piloter, en fait. C'est comme si nous étions à bord, évidemment, d'un engin qui se déplace de plus en plus vite. Et il faut avoir, évidemment, des phares qui éclairent la route. Et c'est la raison pour laquelle la prospective, comme on dit, est si importante. Il faut savoir où on va. Et d'ailleurs, ce que disait Nietzsche, c'est un petit peu ce que vous faites, vous, en permanence, Stéphane, dans vos livres, où vous vous intéressez au passé. En fait, pour aller vers l'avenir, il faut avoir la mémoire longue. Et il faut donc retenir les leçons du passé et les projeter de manière judicieuse dans l'avenir. En réalité, les contraintes qui aujourd'hui font que, c'est comme s'il y avait des capteurs sur notre route, qui font qu'on ne va pas trop dévier. Oui. On dévira de moins en moins.
D'ailleurs, beaucoup de ces objets sont des moyens de transport.
Ah ben, bien entendu.
Alors qu'au fond, maintenant, on n'est plus obligé de voyager.
Mais c'est ça
on peut rester dans son fauteuil. On peut voyager virtuellement maintenant.
Bien entendu, c'est au fond ce qu'on appelle la révolution numérique. Il y a 4 grandes révolutions qui font le paysage du monde de demain. Révolution énergétique, donc les transports sont dedans. La vie quotidienne change évidemment suite à cela. Révolution spatiale, révolution biologique et, bien entendu, révolution numérique. Oui. Cette révolution numérique, elle fait qu'on se télétransporte en permanence.
Ah oui, c'est formidable.
En permanence. On n'a plus besoin, en effet, d'être en lien avec la Chine pour y être instantanément.
Vous téléphonez pour réparer votre... Vous avez un malgage qui vous répond. Le lendemain, vous êtes au Maroc. Vous savez pas, il y a des gens au Maroc qui vous expliquent comment réparer.
On voyage. Où se trouve le restaurant juste à côté de chez vous.
Et puis, l'autre chose, quand même, c'est la révolution médicale aussi. C'est-à-dire que là, maintenant, on va nous soigner avec... Il va y avoir des robots, il y a une caméra qui passe à l'intérieur.
Des puces,
bien sûr.
Oui. C'est fabuleux. Hein,
cette révolution va faire en sorte que nous vivrons tous, probablement dans les 5 à 10 ans, donc c'est pas très loin, en très bonne santé, débarrasser des grands problèmes de civilisation.
Mais ça pose un vrai problème. Combien de temps ? 300 ans ? On va vivre 300 ans, et là, ça pose un problème. On est déjà trop nombreux.
Oui,
comment on va faire ? Il n'y a plus rien à assurer, non, mais Stéphane. Non, mais monsieur Bogdanov, il n'y a plus rien à manger.
Mais
déjà.
Ça va poser des problèmes.
Ça va poser des problèmes. Il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Il n'y a pas assez à manger.
C'est plus l'eau.
C'est la limite que l'on croit infranchissable. Et en fait, c'est une illusion. C'est une illusion pour deux raisons. D'abord, parce que la science va nous donner des moyens de produire beaucoup plus, pour beaucoup plus de monde.
Oui.
La projection qui a été faite nous affirme qu'on pourrait facilement nourrir 40 milliards d'êtres humains, sans aucune difficulté. On occupe aujourd'hui une toute petite partie de l'espace terrestre. Mais il n'y a pas que ça. On va bientôt trouver les moyens de transporter l'humanité sur d'autres sites qui sont, évidemment...
Moi, j'ai une liste avec des gens à envoyer.
Et c'est ça, la grande espérance. Oui. Imaginez que nous partions, évidemment, ensemble sur Mars.
Bah, écoutez, allez-y, je vous rejoins plus tard.
Venez.
Il faut déjà plus d'un an pour y aller. Hein.
Vous croyez vraiment que le progrès va être partagé par tous, comme dit la SNCF, ou ça sera que pour les plus riches ?
Oui, c'est ça. Il y aura deux humanités.
Le fait de vivre longtemps, ça sera réservé aux très riches, et les autres continueront à mourir à 40 ans de maladies infâmes.
Ouais, mais ça leur donnera un but.
Un jour, moi aussi, peut-être.
Moi, j'ai créé un slogan pour ça. Ah. Hier, vieux à 80 ans, demain, jeune à 150.
Bravo. Ça va donner envie. Non, déjà, les politiques, on les revoit tous les
années. Ah oui, si les fans encore.
Si fans jusqu'à 150 ans. Mais il y en a
le 40e quinquennat.
C'est sûr, il est candidat en 2057, ça, il n'y a pas de doute.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Alors, on va continuer à parler dans un instant des objets, des merveilles technologiques qui vont changer notre existence avec Igor et Grishka Bogdanov. Mais là, vous savez, quelle que soit l'humanité, la période que nous vivons, il y a des héros et des salauds. Et justement, pour en parler à la une, Stéphane Blakowski.
Les héros et les salauds de Blacko.
Vous savez, Stéphane, des salauds, il y en a de toutes les sortes. Ouais. Mais attention, les salauds de la pire espèce, le pire des pires, c'est ceux dont on ne se méfie pas, tout simplement parce qu'ils ont une bonne petite tête sympathique. Et ça, ça existe.
C'est vrai.
Prenons les... Ah, tout le monde a déjà une petite idée.
Oui, parce qu'on les entend à la télé. Oh, c'était un si bon voisin, oui. Il était si gentil. Alors, toujours un mot pour les enfants.
Je vais prendre un autre exemple, mais vous allez voir que ça dépasse un peu ce à quoi on pense. Prenons l'exemple de Bambi, le héros de Walt Disney. Voilà un petit salopard qui cache rudement bien son jeu. Alors, je sais, on ne dirait pas comme ça. C'est tellement attendrissant de voir Bambi courir après les papillons ou alors jouer avec Pampan le lapin. On se dit, oh, il est gentil, Bambi. Si mignon, si fragile qu'on voudrait lui faire des câlins, le protéger. Et résultat, dans le film de Walt Disney... C'est le chasseur qui passe pour le salaud. Moi, il y a des millions d'enfants, dont vous faites peut-être partie ici, qui ont regardé Bambi comme un film d'horreur où l'ignoble monstre qui fait peur, eh bien sûr, c'est le chasseur.
J'étais pour le chasseur, moi.
Ah non, vous êtes bien le seul. Parce qu'une fois de plus dans cette histoire, c'est la dictature de l'émotion qui impose sa tyrannie. Alors, sous prétexte que le chasseur a tué la maman de Bambi, c'est lui le salaud. Non, mais désolé. Non, c'est un petit peu simpliste comme raisonnement. Parce que certes, il a l'air tout mignon, ce salaud de Bambi. Mais en fait, c'est une sale bête. Au palmarès des pires bestioles de la création, Bambi arrive largement devant les araignées, les alligators, les serpents à sonnette même. Parce qu'en fait, au lieu de juger les animaux sur leurs apparences, mieux vaut s'en tenir aux chiffres. Or, selon les statistiques publiées récemment par l'administration américaine, l'animal qui tue le plus d'êtres humains chaque année aux États-Unis,
le cerf,
c'est Bambi. Ouais, exactement. Bambi, ou en tout cas, si c'est pas Bambi lui-même, c'est donc son frère, comme on dit, ou alors son père, ou bien même sa mère. Parce qu'elle a l'air bien gentille, la maman de Bambi, sauf qu'une biche. Ben, c'est 100 kilos de barbac, une biche. Ah ouais. Alors forcément, quand vous arrivez en voiture lancée à 90 km/h et que vous prenez une biche dans le pare-brise, il y a de quoi y laisser sa peau. Bambi est un cervidé et chaque année, 120 personnes sont tuées aux États-Unis après qu'un cervidé a percuté leur voiture.
Mais ils ont qu'à rouler moins vite.
Moi, tout de suite, vous prenez la défense de Bambi.
Vous aimez les salauds, vous.
Moi, je dirais au contraire que finalement, le chasseur a bien fait de tuer la mère de Bambi. Grâce au gentil chasseur, au moins, on est sûr que cette salope n'ira pas se jeter sous le... Bah oui, elle n'ira pas se jeter sous les roues d'un car qui transporte des enfants pour provoquer un carnage. C'est vrai que l'alligator a une sale tête, n'empêche, chaque année, il tue 100 fois moins d'Américains que ce salaud de Bambi et toute sa famille. Mais il y a pire que Bambi. Est-ce que vous savez quel est l'animal le plus dangereux
Le sanglier.
Au monde. Non, beaucoup plus dangereux que le sanglier.
Plus petit.
Le rhinocéros.
Oh, beaucoup plus dangereux que le rhinocéros, Stéphane.
Le poisson.
Non, le plus meurtrier des animaux, je vous donne un indice, il pèse 1/1000 de gramme.
Ah, c'est
moustique. Le moustique, évidemment. Moustique. Rien qu'avec le paludisme dont il est porteur, le moustique tue 600 000 personnes dans le monde chaque année.
C'est une horreur. Alors,
par comparaison, le requin est un animal totalement inoffensif, à une dizaine de morts tout au plus. Du coup, mon héros de la semaine, parce que j'ai aussi un héros, pas qu'un salaud, il s'appelle Bradley Main, c'est un chercheur californien, ça va vous plaire ça les frères Bogdanov. Il a étudié le patrimoine génétique du moustique, résultat, il a pu isoler le gène qui fait que les moustiques piquent les humains au lieu des autres animaux. Et donc en lisant ça, je me suis pris à rêver. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Si on fabriquait des MGM en laboratoire, des moustiques génétiquement modifiés, on les lâcherait par centaines de millions dans la nature, ils finiraient par supplanter les moustiques naturels. Et vous imaginez le progrès? Dans quelques années, ça nous permettrait bien sûr de sauver la vie à des millions d'Africains, c'est toujours une bonne nouvelle, mais surtout, ça nous mettrait tellement plus tranquille l'été pour boire un petit verre en terrasse sans être emmerdé par ces sales bestioles.
Ah, très bien. Merci beaucoup.
Les moustiques, oui, vous avez déjà vu. Est-ce que vous avez déjà vu des bêtes se gratter parce qu'elles ont été piquées par des moustiques?
Les bêtes se gratter, j'en ai vu. Oui. En tout cas, on peut retrouver Stéphane Blakowski sur RTL.fr. Allez, on va retrouver Igor et Grishka Bogdanov. C'est vrai qu'on va encore apprendre des choses sur eux.
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
C'est vrai que... il y a un mystère quand même sur vous.
Mais oui, évidemment.
Et vous l'entretenez.
Un double mystère.
Mais en fait, c'est quoi le point double?
Parce qu'on est deux.
Non, parce qu'il y a plein de mystères. Vous les entretenez.
Ces mystères nous dépassent, on feint d'en être les organisateurs, comme
très
dit Shakespeare.
Alors, à 3 ans, vous saviez déjà parler français, anglais et allemand couramment. Vous saviez conduire une voiture à 6 ans. Vous avez donné votre premier baiser à 13 ans et écrit votre premier livre à 16 ans. C'est ça?
Oui, mais c'est remarquablement juste ce que vous avez dit.
Ah bah c'est vous aussi. Et à 18 ans, votre premier pétard, on a aussi. C'est vrai ?
Non, en fait, non, on n'a jamais tapé là-dedans.
Non, vous n'avez pas besoin, je crois.
Non. D'une part. Non, mais on se méfie aussi de tous les modificateurs de conscience.
Ah, oui, voilà.
Ouais. C'est un Ah, c'est beau de dire ça. Au lieu de dire une drogue, on dit modificateur de conscience.
Là, vous passez pour un drogué, quand vous dites.
C'est pas mal.
Un amplificateur de conscience.
C'est quoi ce qu'on a eu hier ? On a eu une assistante de pain.
Oui, non. Une assistante de.
Un partenaire de vie.
De vie,
à court terme peut-être, mais à long terme ou à moyen terme, ça va pas. C'est pas bon. On le sait très bien. Donc non, il vaut mieux rester avec ses propres endorphines naturelles, dont tu mesures déjà les effets.
Oh là là,
ah bah,
ça m'a tout grillé.
Surtout Eric,
ça m'a tout grillé. C'est vrai que vous avez gardé les tenues argentées de l'époque de Temps X. Vous faites des soirées chez
Oui, elles sont toujours là. Et ce sont toujours les mêmes en plus, donc on a la chance on a utilisé un matériau dont on s'est dit à l'époque. Donc
vous rentrez dedans, quoi.
C'est un matériau spécial qu'on a étudié avec des gens de la NASA.
Ouais.
Non mais c'est vrai, ça a l'air, mais c'est tout à fait vrai. Et de sorte qu'ils ne se dégradent pas. Et aujourd'hui, donc, elles sont intactes pratiquement.
Mais vous faites des soirées avec Sheila sur Spacer avec cette tenue argentée voilà.
Complètement. On les a même utilisées sur France 2 dans Fort Boyard.
Dans Fort Boyard.
Et ça résiste.
Patrice, vous avez
Oui, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Il y a même eu un sommet là-dessus. Et vous vous dites qu'il y a des machines qui existent qui permettraient de faire baisser la température de la planète de 3, 4 ou 5 degrés.
Oui, absolument. Des climatiseurs géants. Ça, c'est extraordinaire. Les politiques qui étaient réunies à COP21 ne l'ont pas vu. Ne l'ont jamais dit, et pourtant
c'est incroyable.
Alors nous sommes en contact, on avait parlé par exemple la semaine dernière, avec des chercheurs de l'université de Stanford, qui est une très grande université américaine. Et ils ont mis au point une surface qui est en fait un miroir solaire réfléchissant, qui capte donc la lumière du soleil. Mm-hmm. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, on transforme ça en électricité. Jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est banal. Sauf que cette électricité, elle va servir à alimenter des climatiseurs, qui peuvent être très importants. Ils peuvent climatiser non seulement un salon, par exemple, mais un immeuble, mais un quartier. Il suffit qu'il soit assez grand. Et la surface réfléchissante peut capter beaucoup d'énergie. La difficulté, quand on est en face d'un climatiseur, c'est évacuer la chaleur. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait de cette chaleur ? Eh bien, là réside le génie des chercheurs de Stanford. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont créé une possibilité, grâce à une longueur d'onde particulière, une fréquence particulière du matériau utilisé, qui fait que l'énergie thermique qui est dégagée par les climatiseurs va être récupérée par la même surface que celle qui absorbe donc le soleil et va être transformée en infrarouge. Or, l'infrarouge, c'est la lumière qu'on ne voit pas. Et cette lumière, elle voyage à 300 000 km à la seconde. Elle va où ? Dans l'espace. Dans l'espace ! Ce qui veut dire en fait qu'on va se débarrasser...
Ils auraient pu éclairer le quartier.
En même temps,
on peut le faire en plus.
En plus.
On peut le faire en plus.
Mais donc le problème de réchauffement...
Du réchauffement, oui, parce qu'on peut créer des stations, il suffirait de 20 stations...
Et pourquoi personne n'en parle ?
Personne ne le sait. C'est toujours la même chose. Ce qu'on dit dans notre livre, c'est qu'on vit dans un monde qui est merveilleux, mais on ne le sait pas.
Quand je pense que c'était dans le programme d'Hervé Mariton.
Mais quel malheur !
C'est
un politicien.
C'est vrai que vous êtes des stars en Russie, au point qu'on a baptisé une région de Russie à votre nom, la Bogdanovie.
Ah non, mais ça, c'était avant. C'est-à-dire qu'en fait, on vient d'un pays qui s'appelle la Bogdanovie, qui est une espèce de petite province au sud de Kazan.
Qui a été fondée par nos ancêtres.
Voilà.
D'ailleurs, Stéphane le sait, vous le savez.
Bien sûr. Vous avez des titres de noblesse, vous êtes prince de Bogdanovie, vous êtes comte de Bogdanovie.
Prince.
C'est la devise des rangs.
Oui, oui, absolument.
Roi ne puis, prince ne daigne.
Exactement.
Il est un peu jaloux parce qu'il n'y a pas de Blakonovie.
Vous avez des terres là-bas ou pas encore ?
Non, mais c'est vraiment une province qui s'appelait la province aux mille chevaux. Ouais. Et l'écusson en fait, de cette province, c'est une épée et une croix qui sont croisées. Donc d'un côté, évidemment, on a la force. De l'autre côté, on a la foi. C'est notre devise. La force et la foi.
La foi. Eh bien, ils y croient.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Alors, nous sommes à la fois tournés vers l'avenir avec Igor et Grishka Bogdanov, le livre des merveilles technologiques publié chez Flammarion. Mais on va faire une pause et se tourner un peu vers l'histoire, puisque d'abord, il y a un anniversaire. Il y a 70 ans, le 26 septembre 1946, très exactement, naissait le journal de Tintin, qui malheureusement a cessé de paraître en 88. Et puis, s'ouvre aujourd'hui une nouvelle exposition
qui durera jusqu'au 15 janvier, la grande exposition Hergé au Grand Palais. Des premières planches de Tintin en 1929 jusqu'à la naissance d'un véritable mythe, on découvre tout l'univers d'un jeune reporter, mais aussi de son père Hergé, alias Georges Rémy. Alors, dans Tintin, il y a un personnage incontournable, c'est le capitaine Haddock. Oui,
il y a Milou.
Mais je parle du capitaine Haddock et qui habite le château de...
La Chibouzouk.
Moulinsart. Et voilà. Et nous allons tout de suite à Moulinsart. En fait, c'est un vrai château qui s'appelle le château de Cheverny et qui appartient à Charles-Antoine de Vivray qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour Stéphane. Bonjour à tous vos invités. Bonjour à tous vos auditeurs.
Eh bien, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Je vous en prie.
C'est un angle un peu particulier qu'on a choisi ce matin. D'abord parce que c'est patrimonial. Et puis parce que c'est vrai que c'est un pas de côté qui nous permet de découvrir que Cheverny a directement inspiré Moulinsart.
Très directement. Très directement. On nous pose souvent la question, Hergé parle de Cheverny, mais il a jamais vraiment explicité son choix. Alors moi j'ai une petite interprétation personnelle,
oui,
et qui n'a jamais été démentie ni par les tintinophiles, ni par les tintinologues. Donc elle a peut-être un fond de vérité. Alors là, pour faire vite, si on a le temps, en deux mots, Hergé est un auteur qui est autant documenté qu'inspiré, et quand il doit choisir un modèle pour Moulinsart, je rappelle qu'on est, pendant la guerre, donc la liberté de
42,
circulation,
ouais,
elle n'est pas évidente. Et donc, comme Cheverny fait partie du cortège des châteaux de la Loire, et la plupart étaient déjà ouverts au public, ce qui était le cas de Cheverny dès 1922.
Ah oui, vous
donc
êtes
il
le
lui
premier.
Faut un modèle. Oui. Et puis, Cheverny, on l'a souvent critiqué parce qu'on nous a dit vous n'êtes pas un château Renaissance. Mais je pense que ça nous a considérablement servi et vous allez voir pourquoi. Donc, Hergé, il feuillette les différents livres qui étaient consacrés au château. Donc, comme le Val-de-Loire est la plus grosse concentration de châteaux en France, en Europe et voire dans le monde, donc on l'imagine feuilletant un livre consacré au château de la Loire. Hop, Chambord, il trouve ça un peu trop grand. D'autres châteaux, pas tout à fait. Hop, il tombe sur Cheverny. Puis comme Cheverny, c'est plus la Renaissance, c'est l'architecture classique. Et qu'est-ce que l'architecture classique ? C'est la symétrie, c'est la sobriété, et ça colle parfaitement avec le trait de crayon d'Hergé qu'on appelle la ligne claire.
Bah, c'est surtout que c'est plus facile à dessiner que Chambord.
C'est peut-être facile, mais j'allais dire, c'est cette ligne claire, c'est cette sobriété, cette symétrie qui, à mon avis, lui a certainement tapé dans l'œil.
Alors, en tout cas, on le voit à l'intérieur du château, dans le secret de la licorne, on le voit en entier dans le trésor de Rackham le Rouge, les sept boules de cristal. Vous avez été l'un des... Enfin, Cheverny est l'un des premiers châteaux ouverts au public en France.
En 1922.
Ah oui, c'est fou, hein. Alors, on doit vous en parler tous les jours. Les visiteurs qui viennent à Cheverny, ils sont nombreux. Vous dites, alors, Tintin, Moulinsart...
Il est où ? Vous l'avez racheté à Haddock ?
Non, mais c'est un peu votre marque de fabrique.
Donc, on est forcément très, très fiers. Et j'allais dire que c'est la coexistence et la juxtaposition magique de deux vies de château. Celle de Moulinsart et celle de Cheverny. Et si je me permets de dire ça, c'est que ça va bien au-delà du dessin. C'est vraiment des points communs, d'une vie quotidienne. Mm-hmm. Et j'ai une petite anecdote, mais tout à fait croustillante. Moi, je me souviens, donc j'ai déjà un certain âge, parce que j'ai 51 ans. Donc, j'ai connu le téléphone manuel. Et figurez-vous qu'à l'époque, donc avant le téléphone automatique, nous déjeunions avec mes parents et on nous appelait pour nous commander des côtelettes. Donc, c'est pas une invention.
Tout simplement
parce que dans l'annuaire téléphonique, il y avait la boucherie château, qui était le numéro, pardon, 14, et le château, qui était le numéro 15. Donc, on se trompait souvent et on nous commandait des côtelettes. Donc, la boucherie château et la boucherie sans eau, et ben c'est pas une invention.
C'est drôle. Bon, alors, il y a toujours une exposition qu'on peut voir à Cheverny.
Il y a une exposition qui s'appelle Les Secrets de Moulinsart, qui est ouverte depuis 2001 et qui devrait au moins durer jusqu'à 2020, avant l'éternité.
Oui. J'imagine que vous avez un public comme Tintin qui va de 7 à 77 ans.
Exactement. Même avant et même après.
Bon, en tout cas, on apprécie toujours autant votre bonne humeur, Charles-Antoine de Vibray. Merci.
Adorable.
Et merci de... Voilà, on peut aller vous rendre visite à Moulinsart.
C'est adorable.
C'est au château Cheverny.
Bravo.
2h15 de Paris, c'est vraiment... C'est la porte à côté.
Chibouzouk.
On l'a avec nous, le vrai Captain Haddock. Hein. C'est Patrice Carmouche.
C'est Patrice Carmouche.
Allez, ils sont sympas,
on retrouve maintenant la télé d'Éric Dussard.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors, Éric, on commence avec une sale soirée.
Et oui, hier soir, vous étiez en direct sur France 2, monsieur Bern.
Oui.
Alors, comme à chaque fois que vous passez à la télé, nous étions réunis avec Patrice et Régis dans le salon de cette Algeco au fond de votre jardin, que vous mettez généreusement à notre disposition pour 2 290 € par mois. Alors, au début de la soirée, on était
vous
bien.
Vous avez de la chance, vous êtes invité moi-même, pas oui.
Non, non, mais on est invité, mais ça coûte 3 000 € par mois, l'Algeco.
Ah, moi, j'ai bien fait.
Non, nous n'étions que joie. Nous attendions à voir, comme toujours, un Stéphane Bern flamboyant, royal. Et là, vous nous avez fait honte. Hein. Alors, vraiment. Vous n'avez débité que des obscénités avec votre camarade Nagui. Et en plus, alors, le Stéphane a bugué dès sa première phrase, dès la première minute de l'émission. Le Bern s'est bloqué, en pleine phrase, comme ça.
Et nous allons parcourir des kilomètres de Papeete à Paris, de Lille à Bordeaux.
Très bien.
Ah, oui.
J'étais encore sur le Papeete. J'étais prêt à faire une vanne, mais je vais pas la faire.
L'idée, eh bien, c'est de jouer avec tout ce qui fait notre langue, notre patrimoine.
Mais oui, je suis à côté, je t'entends très bien. Très bien. La carte de France, pas celle que tu as faite l'autre soir.
Non. Ça fait longtemps.
Ouais. Non, non, la carte de France, c'est-à-dire tous les plus beaux endroits, sites naturels et monuments de notre pays. Je suis à côté d'un monument qui a été visité lors des journées du patrimoine.
Absolument. Et restauré aussi.
Et on m'a dit que la queue était...
Ah bah bravo, c'est ça le service public. Voilà où va notre honorance. Non mais c'est du propre.
Il est bien Nagui, il est plus lourd que nous.
Non mais en plus, summum de la honte, votre défi. Vous vous souvenez qu'on lui avait demandé hier midi avec Jeff Panaclock de placer un « il est content » comme Jean-Marc sa marionnette. Alors certes, vous l'avez fait, mais alors faut voir comment. Hein. Non mais c'était lamentable, c'était ni
fait
ni à faire.
Je l'ai
fait
ou je l'ai pas fait.
Ouais, mais vous allez pouvoir en juger par vous-même. Écoutez, il a vraiment fait ça, mais alors genre dégoûté. Et hop, au passage, je vous rajoute une petite blague salace de plus, allez.
Et les gants de Millau et les pipes de Saint-Claud.
Voilà. Et je rappelle que la Saint-Claude, c'est le lendemain de la Saint-Valentin. Avant de... C'est vrai. Avant de jouer...
Vérifier, il est content. Il adore les éphémérides.
Donc vous l'avez entendu, le « il est content » placé en sous-couche.
Oui. J'ai même pas fait attention.
Non mais vraiment, foutez-nous quoi. La prochaine fois, vous allez avoir une pénalité. Prochain direct, c'est la phrase initialement prévue par la marionnette de Jeff Panaclock que vous allez devoir placer, à savoir « j'ai fait caca derrière le mur ».
Le mur, oui,
ça, ça, vous l'aurez bien cherché.
Ça, c'est pas de service public pour le coup, mon vieux.
Alors, non, vous allez voir, bon place à un homme qui assume, lui.
Vous avez peut-être d'autres gens dont vous devez vous occuper, non ?
Oui, avec quelqu'un qui nous a vraiment ravis, lui aussi, hier soir. C'est Bernard de la Villardière. Il était l'invité hier soir de la première de l'émission de Bertrand Chamerois sur W9 qui s'appelle OFNI. Et le nanar, le roi de l'info d'M6, eh bien, s'est transformé une fois encore en roi de la blague, là aussi de bon goût.
Non, mais si t'as un petit trou, j'ai une histoire drôle.
Eh ben, on y va.
C'est l'histoire d'un homme qui est au chômage, qui rentre chez lui, qui annonce sa femme qui est au chômage, et il dit à sa chérie, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Le lendemain, il se lève, il part, il va pointer au chômage, il rentre, et à midi, il y a sa femme à poil qui est en train de descendre à califourchon la rampe d'escalier. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Bah, tu nous as dit qu'on allait vivre d'amour et d'eau fraîche, je fais chauffer le déjeuner.
Voilà, voilà. C'est à ce moment-là, je crois que W9 a regretté que l'émission soit en direct et donc sans montage. Bernard de la Villardière qui présentera d'ailleurs une nouvelle émission un soir sur M6, ça va s'appeler Dossier Tabou. Je pense, vu le niveau des blagues, que ce sera une compile de ses pires vannes. Allez, enfin de l'humour drôle, on aime ici les imitateurs. Les imitateurs de talent, on aime ça. Dans cette émission, eh bien, on a trouvé hier un imitateur hors pair. Bon, ça va aller assez vite, mais c'est excellent. C'était dans le jeu Harry sur France 3.
Nicolas, peut-être que vous devriez le faire avec la voix de Patrick Poivre d'Arvor.
Madame, monsieur, bonsoir.
Vous avez dit. C'est court, mais c'est bien.
C'est bien. C'est
drôle qu'il a l'air dernier.
Non, mais le meilleur moment de l'imitation, c'est.
En fait,
le
il a le texte.
Ouais.
Il n'a pas la voix encore, mais il a le texte.
Non, mais il imite très bien PPDA quand il respire. C'était le blanc à la fin, ça, allez, c'était super bien imité en revanche.
Aujourd'hui, on parle des inventions qui vont changer notre vie.
Oui, grâce à votre livre, Igor et Grishka, mais dans le magazine de la santé de France 5 aussi, on nous a parlé d'avancées scientifiques majeures, comme les résultats de cette étude.
Un chercheur égyptien a été récompensé pour une étude sur la sexualité des rats. Il a montré qu'un rongeur portant un slip en polyester était moins actif sexuellement qu'un rat habillé avec des dessous de laine et de coton.
Ouais, mais le top, c'est le rat en string. Alors là, il est chaud bouillant. N'empêche, il faut quand même avoir l'idée, hein, quand tu es chercheur, te dire tiens, si aujourd'hui je mettais un slip en polyester à un rat pour voir si ça l'excite.
On se demandait pourquoi Mickey n'avait pas d'enfant, c'est pourquoi il pilote en polyester.
Non, mais ils sont un peu désœuvrés à choisir. Je préfère encore cette enquête scientifique qui porte, alors là, sur un vrai problème de société, la disparition des chaussettes. le divorce des chaussettes après la machine. Eh bien, des chercheurs ont également travaillé sur ce sujet. Là encore, une étude capitale, explication dans la quotidienne sur France 5.
Première chose, ils nous révèlent le nombre de chaussettes qu'on perd en moyenne dans une vie. Ah. 1264 chaussettes. Oh. Alors, c'est assez drôle parce que ces chercheurs, du coup, ont un peu plus enquêté. Ils ont réussi à créer un algorithme qui vous permet d'anticiper si vous avez plus ou moins de risque de perdre votre chaussette. Alors, en gros, c'est le volume de linge additionné à la complexité du lavage, soustrait à votre ressentiment face à la lessive.
L'algorithme de la chaussette, je ne connaissais pas.
Non. Quel ressentiment face à la lessive?
Le ressentiment ferait que vous auriez une plus forte propension à perdre les chaussettes, sans doute, c'est pas. Vous connaissiez l'algorithme de la chaussette, Igor Grishka?
Non, on ne le connaissait pas, mais en effet,
on mettra plus de chaussettes.
Très souvent, comme ça, on s'intéresse à des problèmes qui n'ont pas réellement d'intérêt, mais qui sont spectaculaires parce que justement, ils ne servent à rien ou à pas grand-chose.
Mais généralement, quand on dit dans les médias une étude très sérieuse, c'est que ça va être n'importe quoi.
Oui, c'est un peu ça.
C'est toujours la même chose.
Et on termine avec Bienvenue à l'hôtel.
Oui, vous connaissez cette émission Bienvenue à l'hôtel sur TF1? Alors, c'est une émission de désengage, comme 4 mariages pour une lune de miel, sauf que là, on le fait avec des chambres d'hôtel. Et alors, hier soir, une candidate a semblé vraiment ravie.
Je vais vous montrer votre chambre. Je vous ai mis dans une chambre catégorie simple à 30 euros.
D'accord.
C'est-à-dire que les toilettes sont sur le palier. Les toilettes sont communes. Suivez-moi, on fait tous pipi ensemble.
C'est ça. Vous asseyez assis sur le même siège. C'est une sorte de jacuzzi au pipi. C'est très sympa.
Et en même temps.
c'est à conseiller. Dans les douches communes, c'est pareil, on n'est pas obligé d'aller tous au même moment.
Très bien. Merci beaucoup, Éric Dussard. Mais peut-être qu'il y aura de nouvelles inventions dans quelques années qui font qu'on pourra
faire pipi ensemble sans attraper de MST. Non. Ça pourra être sympa.
On n'aura peut-être plus besoin. Je ne sais pas.
Les toilettes laser, évidemment.
Oui. Notre corps va changer aussi. Et il paraît qu'on va perdre le cinquième petit doigt de pied.
En fait, je ne pense pas que l'évolution biologique transforme l'être humain. Je pense qu'on aura des possibilités, évidemment, d'amplifier certaines de nos facultés, mais pas en entrant dans ce qu'on appelle le transhumanisme. L'être humain est pratiquement parfait aujourd'hui. Et il doit le rester.
Ça dépend lesquels.
Alors, bien entendu, le cortège de difficultés qui nous environnent, je parle des problèmes de santé, etc., tout ça doit disparaître. Et dans 5 ans et dans 10 ans,
tout sera résolu.
Ces fléaux de civilisation...
Tout disparaîtra. Voilà, tout par contre, Régis Maillot sera là dans un instant, juste après les informations. Et puis, le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous retrouvons les frères Bogdanov, Igor et Grishka. Le livre des merveilles technologiques, quelle est la merveille, la chose qui pour vous est la plus importante?
La plus importante? D'abord, il y a la chose la plus agréable.
Oui.
Imaginez, Stéphane, que nous sortions là et nous avons dans la rue une voiture qui est une voiture volante. Mmh. Eh bien, ça va exister dans un an, elle s'appelle l'aéromobile, et vous allez pouvoir vous déplacer donc dans Paris avec votre voiture, qui n'est pas plus encombrante qu'une voiture ordinaire. Et puis, lorsque vous voulez aller un petit peu plus loin, vous allez aller vers l'autoroute, et là, vous déployez les ailes, et un peu comme dans James Bond, hop, vous vous envolez.
Mais il y aura des embouteillages et plus d'accidents de voiture aussi.
Des aérobouteillages.
Il y avait des gens qui avaient déjà inventé ça dans les années 60. Hein.
Oui, c'est vrai. Et même plutôt que ça, en 1922, quelqu'un qui s'est
appelé c'est notre rêve, pour échapper aux embouteillages, mais si on est tous en l'air, ça va faire des embouteillages dans l'air. Voici un garçon qui veut lutter contre la pénibilité de certains emplois, Régis Maillot.
Oui, Stéphane, vous avez raison, on n'évoque pas assez la pénibilité au travail. À la une d'aujourd'hui en France, le Parisien, le quotidien, nous relate un drame de la vie ordinaire, une enquête terrible, qui m'a tiré les larmes, intitulée « Dur d'être un député socialiste ». Un reportage sur le quotidien éprouvant de députés socialistes de province qui doivent porter sur leur dos le poids du quinquennat de Hollande. Et manifestement, ça tire sur les lombaires. Hein. Pour certains, on est à la limite de la paraplégie. On dirait des gamins qui portent à l'école des cartables un peu trop lourds. Hein. Alors en ce moment, c'est vrai qu'être élu socialiste un dimanche matin sur un marché avec en bandoulière le bilan politique de François Hollande, c'est un peu comme faire la messe dans une église à Lyon en plein scandale de pédophilie. T'as beau ne pas être responsable ni avoir trempé ton biscuit dans le bénitier, quand tu croises un parent à la sortie du catéchisme, tu perçois le poids du doute et du soupçon. Quelque part,
part, c'est un peu toi qui as tripoté les gosses. Alors aujourd'hui en France, nous explique tranquillement que, je les cite, hein, de point j'ouvre les guillemets, la mauvaise image du gouvernement est telle que cela rejaillit sur les élus de terrain qui commencent à craindre pour leur avenir. Tu m'étonnes, va trouver un boulot avec un CV plombé, toi. C'est comme postuler chez Greenpeace après avoir été chef de produit chez Monsanto. Tu fais l'impasse sur ton profil Icolin. Hein. Mais dites-moi, vous êtes de gauche, oui. Vous avez fait quoi entre 2012 et 2017 ? J'ai pris un peu de recul. À tel point que certains pensent même à changer d'identité, voire plus. Hein. J'ai un ami qui est élu socialiste, il a fait le grand saut, hein, et je t'embrasse, Géraldine. Voilà. Alors, autre dossier dans, aujourd'hui en France qui a particulièrement attiré mon attention et celle et qui va attirer celle de nos auditeurs qui nous écoutent en voiture, ce dossier est intitulé « Ce que nous faisons dans l'intimité de notre voiture ». Alors selon une étude réalisée par Citroën, un Français passe en moyenne 3 ans et 10 mois dans sa voiture au cours d'une vie. Et il y fait plein d'autres choses que conduire. Alors ce qu'on y fait le plus, on y chante et on y boit. Ça tombe bien, moi aussi j'adore chanter en voiture, surtout quand je suis bourré. La voiture est un peu le prolongement de la maison, la preuve, on y mange souvent, parfois trop, hein. Quand tes tapis de sol ressemblent à un fond de grille-pain et que t'as des traces d'huile de palme sur les vitres, faut arrêter les pépitos. Voiture est également une salle de bain bis, en effet, à part la douche qui est techniquement difficile à prendre, sauf à opter pour une décapotable les jours de pluie. La voiture est un peu le salon de beauté sur roulette. À noter qu'on reconnaît une femme qui s'est maquillée en voiture quand le matin tu croises Nathalie à la machine à café qui te sourit avec de la... des bonnes traces de rouge à lèvres sur les dents, du mascara sous les joues et un crayon enfoncé dans l'œil droit. T'es passé par la rue Jean Jaurès ce matin, Nathalie ? Comment tu le sais ? Ah ben, ils ont fait installer deux dodanes, là. La prudence est à observer, à noter qu'il est très, très, très dangereux de se raser en voiture, demander à Franck Ribéry. Voiture qui s'avère aussi une bulle d'intimité. Les Français confessent avoir fait entre 2 et 3 fois l'amour dans leur véhicule. Statistique qui augmente de façon conséquente pour les propriétaires de camionnettes stationnées à l'entrée des portes du périphérique du côté de la voie de l'eau.
Aïe, encore ?
Arrêtez. Je vais vous faire une confidence. Moi, je me souviens très, très bien de la première fois où j'ai fait l'amour en voiture. Hein. C'était pendant les vacances, il faisait chaud, mes parents conduisaient. Et avec ma sœur, on s'ennuyait à l'arrière.
Ah, bref, alors...
Alors, je ne sais pas qui a donné toutes ces réponses à ces sondages, mais nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette enquête dans La Bonne Heure. J'ai interrogé l'équipe de La Bonne Heure ce matin. Alors, dans l'ordre, ce que mes confrères font le plus en voiture, Dussard, le téléphone, ça lui permet de visionner ses extraits de télé. Carmouze, lui, ça l'UBI, c'est le décrotage de crottes de nez. Je vous conseille pas de mettre les doigts dans son vide-poche, c'est un vrai paquet de cacahuètes.
C'est vrai qu'au feu rouge, on voit plein de gens se curer le nez dans la voiture.
Exactement.
Même intérêt des vitres teintées.
Tout à fait. Voilà. Et il y en a un dont je tairai le nom pour pas le mettre mal à l'aise, mais qui m'a répondu qu'il profitait de ses moments privilégiés en voiture pour lâcher des paix sonores en écoutant Nana Mouskouri. Donc voilà.
Merci de votre discrétion.
Voilà.
Vous avez des lanceurs irritables à coup.
Bon, pour conclure, la voiture, c'est l'endroit privilégié pour évidemment écouter la radio, de préférence sur RTL, et tout particulièrement du lundi au vendredi entre 11h et 12h30, car comme on dit chez nous, c'est la bonne heure.
Merci beaucoup, Régis Maillot, qu'on peut réécouter sur RTL.fr.
Vous écoutez RTL.
Moi, président de la République.
Si j'étais président.
Moi, président de la République.
Moi, président. Moi, président. Voilà. Très bon son jingle, Alex. Alors, si j'étais président, d'abord, quel serait votre slogan de campagne pour être élu ?
Mais on dit aujourd'hui que la politique déçoit les Français, qu'on a besoin de changement. Et comme vous le savez, Stéphane, Igor et moi, nous sommes les spécialistes de Big Bang. Alors, on propose le Big Bang en politique. Voilà. Et notre slogan, c'est « Vive le Big Bang ! »
Très bien.
Il y en a qui ont déjà fait le gang bang. Ça changera.
Non, moi, c'est pas tout à fait le même. Moi, je dirais autre chose. Je dirais, par exemple, parce qu'il faut être dans le discours politique, il y a toujours une certaine part de démagogie. Donc, pour être un peu démagogue, je dirais, moi, président, je n'oublierai jamais l'avenir.
Très bien,
ah, pas mal. Hein. Et pas mal, quelle serait votre chanson? Vous auriez une chanson
Bah, moi, je reviens, puisque vous avez vu que Igor et moi n'est pas toujours d'accord.
Oui, mais ça arrive.
ça arrive. Bah,
vous avez donc, deux vous personnalités avez, en même
mais
temps.
Oui, mais ça arrive rarement, mais c'est grâce à vous. Mmh. Voilà, la vérité monte à la surface. Et bah, moi, je reviens avec le Big Bang, et je pense qu'il faut chanter la chanson du Big Bang. Donc, on va le faire, on va le faire.
D'accord.
On va le faire ensemble.
Chanter la chanson du Big Bang.
Ça s'appelle « Vive le Big Bang ». Ah oui, 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 vive le Big Bang, vive le Big Bang, vive le Big Bang, ah, 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 ah.
Ah, ouais. C'est la chanson. C'est la chanson du Bang tout court, ça, quand on fume un bang.
Oui, c'est ça.
Après, on chante ça.
Bon, non, mais les infirmières sont là, tout va bien. Et vous habiteriez où? À l'Élysée ou ailleurs?
On habiterait évidemment, on en a parlé tout à l'heure, cette planète va être parfaitement terraformée, comme on dit, on sera sur Mars.
Ah, super.
Ça fait de la route.
Ben oui.
Ça fait Yabon de manif.
Ça fait de la route, on pourrait bosser.
Alors après, on va encore dire, oui.
Tant d'aller manifester à Mars.
On va dire, le budget de l'Élysée a augmenté. Ouais.
Ah, mais non, le slogan, ça sera « Allez, allez, la France, en avant, Mars !»
Bravo, bien. Bah, voilà des slogans. En tout cas, dans le livre, il y a de formidables images avec et notamment tout ce qui peut nous arriver, des robots qui vont tout faire à notre place.
Ah oui, on a été dans le monde entier chercher ces images. Il y a 1500 images dans le livre.
Ah, non, mais c'est magnifique.
Donc ça nous permet
un robot cuisinier, c'est un vrai robot qui fait la cuisine. Hein. C'est pas
et l'armoire à sécher les vêtements. Vous mettez vos vêtements le soir.
Ils sont
là. Et alors, le lendemain matin, vous les retrouvez lavés, séchés, repassés et parfumés.
Stéphane, vous n'aurez plus besoin de personnel.
Oui, c'est magique. Vous n'aurez plus besoin de venir faire des heures supplémentaires. Ah,
et le sac à vol, vous imaginez, vous mettez votre petit sac à dos, c'est un sac à dos qui va vous envoler et vous allez à des 10, 20, 30 mètres au sup. Par exemple, on peut aller sur le toit d'RTL comme ça avec un sac à vol.
Je vous en offre,
Stéphane.
On retrouve Patrice Carmouze maintenant pour le test à l'aveugle des chansons comiques.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Nous sommes toujours en direct sur RTL avec nos invités, Igor et Grishka Bogdanov, le livre des merveilles technologiques chez Flammarion. On a vu que vous étiez capable de chanter le chant du Big Bang. Et bien maintenant, il va falloir reconnaître les chansons du test à l'aveugle pour gagner un séjour à l'hôtel Spa 4 étoiles, la Chenaudière, à Colroy-la-Roche, dans la vallée de la Bruche, entre Strasbourg et Colmar. Et Patrice, on joue
pour
deux auditeurs.
Les frères Bogdanov pour Gisèle et le reste du monde pour Davy. Et donc, ce soir, sur Paris 1ère, il y a un documentaire qui s'appelle « C'est plus marrant en chantant, un siècle de chansons comiques ». Donc, je me suis inspiré, que c'est à 20h45, de ce documentaire pour vous proposer quelques chansons. Il faut reconnaître qui chante. Ça, c'est assez récent.
Il n'y a pas de la cité, mais le beat est bon.
Ah bah oui, c'est Camini.
Oui.
Camini.
Camini. Marie Gaumont, ça s'appelait.
C'était un des premiers à faire le buzz, comme on dit, sur Internet, avec une chanson.
C'est passé d'abord sur Internet. C'est comme ça qu'il a connu son succès. Ça, c'est un peu plus ancien.
Il faisait un temps
Félicie aussi.
Ah oui,
Fernandel. Pour Stéphane.
Oui. Je pensais les arbres
un partout.
Félicie.
Aussi.
Ensuite.
Si tu vas à Romero. N'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village.
C'était l'hymne des Jeux Olympiques, hein, cette.
C'est pas une chanson drôle.
2-1.
On devrait redécouvrir
Dario Moreno. C'est formidable.
C'est très très drôle.
C'est aussi, on devrait le redécouvrir.
Ça c'est Bobby Lapointe.
Oui.
Stéphane
ne
nous invite jamais à ses soirées.
Mais, alors, c'était donc, des 3-1 pour l'équipe de Stéphane. Attention, ça c'était une chanson un peu coquine, enfin même un peu plus que coquine, quoi.
Ça c'est Elmer Fubit.
C'est quoi
Elmer Fubit? Elle aime là.
C'était un peu ça.
Elmer Footbeat. Et d'ailleurs, quand ils étaient en concert, ils criaient Elmer Foot quoi ?
C'était un groupe de rock nantais qui a eu un grand succès.
Le grand succès, c'est moi ce que j'aime dans Daniela, qui est cette chanson. C'est qu'on peut y mettre les doigts.
Il y a toujours la place pour les copains qui passent.
C'est comme Bobby Lapointe, mais 40 ans plus tard, vous voyez.
3-2.
3-2, oui.
3-2, attention, ça c'est facile.
Le Dandy de la salsa du démon.
Comment
vous pouvez savoir si
vite? Trop vite quand même.
Trop lu.
5-5-4-2. Il n'a pas le triomphe modeste, mais il est là, il danse.
Il est content.
Voilà un chanteur qui a fait pas mal de chansons humoristiques.
Ah bah, Gotenner.
Gotenner, oui.
3-2. Ah, ça se resserre, hein. C'est chaud.
4-3. Ça, c'était Eric qui a donné la réponse. Hein.
Oui, tout à fait.
Pour l'équipe RM. Attention, ça, ça peut peut-être valoir une égalisation.
NTM.
Ah, ça, c'est Michael Youn.
Michael Youn. Oui. Fouta cagoule.
Je mettrai ma cagoule sur pour pas violer les...
Vous voyez, jusqu'en 1950, c'est vous, Stéphane. Ouais. Et après, égalité.
Gagné. Bah, ça, alors, peut-être qu'il va gagner, là, bah, Stéphane, oui. Là-dessus.
Magali
Noël. Ah oui.
Non, il faut un autre.
C'est une chanson de Boris Vian qui s'appelle Fais-moi mal. Fais-moi mal,
Jeune. Moi j'aime l'amour qui fait boum.
J'aime l'amour qui fait boum. Qui fait boum. Oui, qui fait boum même. Alors pour départager, il y a ça.
Voilà, j'arrive les potes. Je vais mettre ma culotte. Puis enfiler.
Moi je m'en vais.
C'est un jeune Noël.
Bradem, ouvreur.
Non, c'est plus récent que ça. Il est mort il y a pas très longtemps.
Riz et Barrier.
Non, ça ressemble à Riz et Barrier. Vous avez raison, mais c'est pas Riz et Barrier.
Je n'ai pas d'idée.
Il est plus connu pour une chanson qui est Qu'est-ce qu'il a.
Pierre Vassilieu.
Oui,
Vassilieu.
Pierre Vassilieu.
J'ai apporté ma pierre à la victoire de l'équipe Reste du Monde.
Et là, il y avait une petite perle.
C'est chaud,
qui,
hein.
Alors, c'est une reprise d'une chanteuse qui s'appelait Gabi Montbreuse et qui avait deux grands succès.
Gabi Montbreuse.
Elle avait deux grands succès. Elle chantait Je l'ai perdu dans un taxi et elle chantait aussi Tu m'as possédé par surprise.
Parce que je l'ai perdu dans un taxi, ça remonte à ce qu'on fait dans les voitures.
Exactement.
Et ça crée un peu de cohésion avec l'émission. En tout cas, c'est
Gabi
qui gagne.
À la fin de la chanson, elle dit tu m'as repossédé pour surprise. Alors,
c'est Gabi qui gagne, qui gagne à Neuville-sur-Escaut ce séjour à la Chenaudière, à Colroy. La Roche.
Une belle remontée.
Je rappelle le livre des merveilles technologiques. Merci Gori Grishka-Bogdanov d'avoir été en direct et en public avec nous sur RTL. Demain, nous serons avec Pascal Elbé et Barbara Schulz. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée à l'écoute d'RTL et à demain. RTL, il est 12h30.
Vous écoutez RTL.